Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.
Sur Radio Présence, bonsoir et bienvenue ensemble pour démarrer ce début de soirée avec moi, Louis-Marie. Bonsoir Louis-Marie.
Bonsoir Enzo.
C'est dernière émission de l'année 2025. Alors au programme, qu'est-ce qu'on a au programme Louis-Marie ce soir?
Alors des chroniques, un entretien, une rediffusion d'un autre entretien, bref plein de choses, ça va être très très sympa.
Voilà les petits best-of de l'année avant de se quitter, on espère que vous avez passé un heureux et saint Noël. Bon courage d'ailleurs si vous reprenez le boulot et vous êtes sur le chemin du retour pour regagner votre domicile. Vous avez de la chance si vous êtes encore en vacances, nous on est là, hein, l'équipe de Soif d'autre chose, on est là pour vous accompagner pour ce début de soirée ensemble. Dans quelques minutes nous aurons l'abbé Damien Vernet qui va nous faire un petit retour d'expérience sur son petit séjour en Terre Sainte. Et puis on va aussi te réentendre Louis-Marie avec l'entretien que tu as réalisé le samedi du Radio Don avec le père Bogdan qui est donc curé de la basilique Saint-Cernin, justement sur la Saint-Saturnin et les Vêpres. Voilà, le programme est lancé, on peut commencer hein,
allons-y,
allons-y. Et on va commencer directement avec un peu de musique, ça va vous rappeler des bonnes années et ça va peut-être vous faire danser si vous êtes dans la voiture ou même dans le studio de Radio Présence. Puis Marie est en train de danser là devant moi, c'est assez exceptionnel.
On va danser ensemble, c'est génial.
On va danser ensemble, Abba Dancing Queen, pour démarrer cette soirée ensemble. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h sur Radio Présence. Très bonne soirée si vous venez de la commencer.
Looking up for
19h05 sur Radio Présence, nous sommes de retour, c'est Soif d'autre chose, votre émission qui démarre votre soirée ensemble jusqu'à 20h comme tous les lundis en direct. Vous pouvez nous appeler au 05 67 20 19 71 pour passer à l'antenne si vous avez des petites questions. C'est un peu radio libre ce soir, donc n'hésitez pas à passer à l'antenne, à nous donner un coup de fil si vous voulez, à réagir ou même poser des questions. On se fera le plaisir de vous faire passer à l'antenne. Je vous rappelle le numéro 05 67 20 19 71 05 67 20 19 71. Louis-Marie, c'est l'heure de la première chronique.
Tout à fait, donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé depuis la semaine dernière et comment ne pas passer à côté de Noël, évidemment. Petite particularité cette année, c'est que cette année, pour la première fois depuis 2 ans, Noël a été fêté à Bethléem, en Terre Sainte, par le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pizzaballa. Donc un grand événement, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard avec l'abbé Damaverly qui était à Bethléem. Donc on est ravis de le recevoir et on est ravis aussi d'entendre son témoignage. Quoi d'autre aussi ? Le 24 décembre, c'est passé un peu inaperçu parce que c'était la vigile de la nativité, donc forcément on était très concentrés sur Noël. Mais nous fêtions un saint qui est très très apprécié partout dans le monde et surtout au Liban, parce qu'il s'agit de Saint Charbel, un saint qui est connu pour avoir de nombreux miracles associés à son intercession. Et d'ailleurs notre pape Léon XIV lui a rendu visite récemment lors de son voyage apostolique au Liban. Ensuite, le 26 décembre, nous fêtions Saint-Étienne, dont la cathédrale de notre diocèse porte le nom, le premier diacre martyr aussi. Le 27 décembre, nous fêtions Saint-Jean, qui sera l'objet d'une chronique un peu plus tard en fin d'émission. Et le 28, donc hier, nous fêtions les Saints Innocents. Petit point également sur Rome et les portes jubilaires qui ferment peu à peu au fur et à mesure de cette année. Le 21 décembre, c'était la fermeture de la porte sainte de la prison de Rebibbia. Le 25 décembre, jour de Noël, fermeture de la porte sainte de la basilique Sainte-Marie-Majeure, où repose le pape François. Le 27 décembre, c'était la fermeture de la basilique Saint-Jean de Latran. Et hier, le 28 décembre, c'était la fermeture de la basilique Saint-Paul hors les murs. Et pour terminer, la dernière porte sainte sera clôturée le 6 janvier à la basilique Saint-Pierre par le pape Léon XIV lui-même. Donc voilà un peu pour les informations depuis la dernière fois. On se retrouve donc tout à l'heure pour une chronique plus en détail sur la figure de Saint-Jean. Et je repasse la main à Enzo.
Merci beaucoup Louis-Marie pour cette chronique. On va refaire une petite pause musicale en attendant l'abbé Verlet là, qu'on va avoir par téléphone depuis Bethléem. C'est Francis Cabrel avec Encore et Encore. Très bonne soirée si vous écoutez Radio Présence à Toulouse sur le 97.9.
D'abord vos corps qui se séparent, et seul dans la lumière des phares, et t'entends à chaque fois que tu respires comme un bout de tissu qui se déchire, et ça continue encore et encore. C'est que le début d'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne, les heures s'allongent comme les semaines, et tu te retrouves seule assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace, t'as personne devant. La même nuit que la nuit d'avant, les mêmes endroits, deux fois trop grands. T'avances comme dans des couloirs, tu t'arranges pour éviter les miroirs, mais ça continue encore et encore. C'est que le début d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. Et toute seule au fond de l'espace, tu l'oublies à longueur de journée. Dis-toi qu'il est de l'autre côté du pôle. Dis-toi surtout qu'il ne reviendra pas. Et ça te fait marrer les oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux. oiseau qui s'envole. Compte les chances qu'il te reste un peu de son parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Y a des couples qui se défendent sur les larmes de ton plafond. C'est toujours le même film qui passe. Toute seule au fond de l'espace, t'as personne devant, personne.
19h12 sur Radio Présence, c'est l'heure du grand entretien et aujourd'hui, comme invité exceptionnel, nous recevons l'abbé Damien Verlet. Bonsoir monsieur l'abbé.
Shalom, shalom.
Shalom à vous, monsieur l'abbé. Alors vous nous appelez, alors pas depuis Bethléem, vous étiez il y a quelques jours, mais depuis Paris, c'est bien ça?
Oui, je suis en transit un petit peu, oui.
Très bien, alors on va vous poser alors quelques questions un peu sur votre pèlerinage hein, en Terre Sainte, sur voilà, quelle est un peu cette sensation qu'il y a actuellement en Terre Sainte, hein, malgré le conflit, comment s'est déroulé Noël à Bethléem. Ça fait depuis un petit moment hein, que Noël n'a pas été fêté, voilà, quels sont vos ressentis à chaud là déjà?
Eh bien, écoutez, en fait, moi j'y suis depuis 3 mois et c'est vrai que j'ai eu la chance de voir le cessez-le-feu officiel. Et donc un grand espoir renaître un peu dans le cœur des chrétiens et puis des gens qui habitent là-bas. Et en même temps, un espoir bon tempéré par le fait qu'ils savent très bien que l'absence de guerre n'est pas la paix. Et donc ils voient un peu le bout de cette guerre, mais en même temps ils savent très bien. Et le sentiment c'est quand même qu'il y a beaucoup de craintes, de reprise d'hostilité, et de manière générale, eh bien les gens ont un peu une crainte les uns des autres. Mais tout de même, dans ce contexte-là, ce qui était extraordinaire pour le patriarche et pour tous les chrétiens, c'est de pouvoir refaire des grandes fêtes à Bethléem. Donc ils ont mis un immense arbre de Noël devant Bethléem, ils ont refait des grandes fêtes auxquelles participent beaucoup de musulmans et de chrétiens. Le patriarche est venu, il y a eu ce marché de Noël, bien sûr ça fait partie un petit peu des choses qu'il y a dans le décor. Et pour la célébration de Noël en elle-même, bah, c'était assez extraordinaire, parce que la basilique était pleine à craquer, le patriarche a prêché de manière très solennelle et très belle, et en même temps voilà, traçant un petit peu un chemin pour l'avenir. Et voilà, et pour moi comme prêtre français, au milieu de 150 prêtres, d'être dans cette basilique, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Et en fait, pour que vous sachiez, à Bethléem, il y a ce qu'on appelle le champ des bergers, sur lequel il y a une quinzaine d'hôtels, ou peut-être plus encore, hein, où tous les pèlerins eh bien, ont l'habitude de célébrer Noël. Donc ouais, tout au long de la nuit, sur tous ces hôtels, il y a des gens qui viennent célébrer la messe. Et donc moi j'ai eu la chance à 17h de célébrer la messe au champ des bergers, la messe de la veille, avec une 60aine de Français, dont certains Français qui habitent là-bas depuis des années. Et puis après à minuit, donc la grande célébration avec le patriarche. Et là, c'était très, très impressionnant. Et on termine, en fait, sous la basilique, où il y a la grotte avec la mangeoire et le lieu de l'adoration des mages, des bergers. Et là, on était tous serrés, voilà, en chantant à tue-tête. Et c'était quand même voilà, beaucoup de ferveur et beaucoup de joie. Moi.
Très bien, magnifique. Et en dehors de cette célébration de Noël, qu'est-ce que vous avez observé depuis le début de votre arrivée en Terre Sainte? Et comment est-ce que vous avez ressenti ça? Donc, vous nous parliez un peu du cessez-le-feu, mais globalement, plus du côté du climat chrétien entre guillemets du lieu, comment est-ce que vous avez vécu ça en tant que prêtre français justement qui venait de l'extérieur?
Et ben écoutez, c'est assez intéressant de voir de voir des communautés chrétiennes, parce qu'en fait, vous savez, il y a beaucoup de communautés étrangères qui sont installées là-bas. Au fin 19e et début 20e, il y a plein de communautés françaises qui ont voulu s'installer à Jérusalem et qui demeurent, et donc qui ont beaucoup fait d'accueil de chrétiens, de pèlerins. Et puis bah, là, depuis 4 ans, en fait, il n'y a plus d'accueil, hein, parce qu'il y a très peu de pèlerins. Et donc là, bah, il y a un peu cet espoir du retour des pèlerins. Et puis pour les communautés chrétiennes en tant que telles, ben, pour certaines, elles sont un peu entre le marteau et l'enclume. Hein. Vous savez, tous les chrétiens qui sont en Cisjordanie, dans les territoires occupés, ben, il y a une grosse pression de la part de colons israéliens, et parfois vraiment extrémistes et très violents. Et puis en, l'islam aussi, qui a un côté un peu conquérant. Et donc, ben, voilà, les chrétiens essayent d'être ferments de paix au milieu de tout ça, de demeurer. Il y a plein de jeunes chrétiens qui malheureusement fuient. Dès qu'ils peuvent, en fait, ils partent et ils migrent. Donc là, c'est un peu voilà, source d'espérance pour certains. Mais ceux qui sont là, et les prêtres, bien sûr, et les curés, eh bien, essayent de développer, y compris économiquement, les communautés pour que bah, ils puissent subsister et avoir des perspectives pour l'avenir. Donc voilà, c'est un climat assez particulier. Bien sûr, les yeux sont aussi un peu tournés vers Gaza, hein, parce que Gaza, bah, on voit pas trop, les informations passent pas trop. Mmh. Quand on habite à Jérusalem, vous voyez, on voit rien de ce qui se passe à Gaza. Ouais. On a l'impression que tout est paisible, et pourtant, il y a des morts chaque jour à Gaza.
Alors, c'est pas si loin.
Ouais, et voilà, c'est juste à côté. Donc, il y a ce côté un peu étonnant. Et on peut ne rien voir, mais en même temps, on sait que tout autour, il y a beaucoup de crispations, il y a des morts, et il y a beaucoup de souffrance. Et donc voilà, au milieu de ça, bah, petite anecdote, hein, mais je suis allé avec des sœurs de Mère Teresa pour aller faire des maraudes auprès des toxicos à Tel Aviv. Bon, c'est assez bouleversant de voir ça. Bouleversant de voir une jeune Française qui vient de Nantes, hein, et qui était depuis des années à Gaza comme religieuse, et maintenant elle est à Jérusalem. Voilà, bon, bah, les chrétiens essayent de tenir leur rôle, hein, d'être lumière du monde au milieu des conflits de ce temps, quoi.
Ouais, Noël, un peu un synonyme quand même d'espoir pour une paix ou un espèce de soulagement.
Bien sûr, oui. Soulagement, ça c'est sûr, hein, il y a ça, parce que la guerre est finie. Vous savez, c'est assez marrant de voir le monde d'Israël. Hein, bon, eux, il n'y a pas la laïcité comme en France. Hein, vous savez, lorsqu'il y a eu le cessez-le-feu, il y avait des immenses panneaux avec le portrait de Trump avec marqué « Merci au nouveau Cyrus ». Pour rappel, Cyrus, c'est l'empereur perse qui a permis le retour des Israélites qui étaient exilés à Babylone vers Jérusalem. Donc, vous voyez, il y avait des immenses panneaux en disant « Merci Trump, le nouveau Cyrus ». Donc eux, ils mélangent un petit peu tous ces aspects religieux et politiques. Mais tout ça pour dire qu'il y a un peu cette joie, en tout cas pour les Juifs, de la fin de cette période où il y a eu tant d'otages, qui a vraiment traumatisé le monde juif, et pour les Palestiniens aussi, bah, d'un peu de paix, parce que voilà, ils avaient besoin de cette paix. Et donc, oui, voilà un petit peu ce que je peux dire de ce que j'ai ressenti, mais ce qui est vrai, c'est qu'il demeure quand même certains climats de tension. Voilà, moi, comme prêtre catholique, en se promenant, vous savez, dans les rues de Jérusalem, bah, on découvre aussi la diversité des religions, et puis des gens qui peuvent parfois mépriser au nom de leur religion. Mmh. Et ça, c'est un peu impressionnant, hein, de voir ça, parce que nous, comme chrétiens, on sent bien que notre cœur est appelé à être universel, on est appelé à aimer toute personne, même celui qui vous hait le plus. Mais en fait, dans certaines compréhensions du judaïsme à l'heure actuelle, on doit mépriser les chrétiens. Et des hommes d'église, il n'est pas rare que des gens crachent sur la route quand ils croisent des hommes d'église. Donc ça, c'est un peu violent pour nous comme chrétiens de voir des choses pareilles. Mmh. Mais bon, voilà, on essaie de vivre ça chrétiennement, quoi.
Très bien. Là, on parlait du coup de Jérusalem, on reviendra dessus un peu plus tard. Et moi, je voulais vous demander si jamais vous avez eu l'occasion aussi, durant votre pèlerinage, de voir d'autres coins, peut-être un peu plus reculés, où les communautés chrétiennes sont très minoritaires, peut-être par exemple des villages en Palestine. Il me semble qu'il y a quand même quelques villages chrétiens en Palestine. Est-ce que vous avez eu un peu l'occasion d'appréhender un peu ce terrain-là?
Oui, alors ça, j'étais heureux de, grâce à Samuel Pruvot, journaliste de Famille Chrétienne, là, qui est, on connaît bien la paroisse étudiante aussi, hein, il était venu pour faire un reportage pour Famille Chrétienne à Taïbé, le dernier village totalement chrétien de Palestine, et donc je suis allé avec lui, et donc c'était assez bouleversant, ouais, de voir ces communautés, à la fois une communauté latine et puis une communauté melkite, grec catholique, et donc deux prêtres assez remarquables, hein, qui sont là, qui tiennent le terrain, qui tiennent leur rôle de curé, qui prennent soin des brebis, et en même temps qui étaient un peu dans l'appréhension à l'occasion de la cueillette des olives, parce que c'est un peu un des, c'est l'or vert, on appelle ça, hein, c'est un des moyens de subsistance de beaucoup de chrétiens, enfin, et beaucoup de palestiniens. Et souvent, c'est l'occasion de friction avec des colons juifs, des colons juifs un peu extrémistes qui viennent, faire certaines exactions auprès des agriculteurs palestiniens. Donc, ils étaient assez embêtés par ça, et en même temps, ils cherchaient le soutien, et qu'ils ont, hein, du consul de France à Jérusalem. Parce que vous savez que la France a toujours eu ce rôle historique
de
protection, voilà, ouais. Tout à fait, protection des chrétiens d'Orient. Et le consul de Jérusalem est assez attentif à ça. Mm-hmm. Et donc, ils viennent un peu pour faire bouclier humain, entre guillemets, hein, ouais. Et pour soutenir les chrétiens dans la récolte des olives. Et ça, c'est assez beau de voir aussi cet engagement de la France à cet égard. Et puis, petite anecdote pour ceux qui connaissent la paroisse étudiante, hein, j'ai eu la joie de rencontrer Manuela Fitchi, qui est une ancienne de la paroisse étudiante, qui après 10 ans à Radio Vatican, travaille maintenant au consulat de France à Jérusalem. Et en fait, donc elle avait fait un doctorat, une thèse sur les relations du Vatican et d'Israël. Et actuellement, en fait, elle est conseillère au consulat pour les communautés religieuses françaises qui sont en Terre Sainte. Et donc, c'est très intéressant de voir une ancienne de la paroisse étudiante, hein, faire une belle carrière, entre guillemets, et être engagée là-bas auprès des chrétiens et des communautés chrétiennes.
Qui montre que la paroisse étudiante de Toulouse est partout et qu'elle a le bras long avec un sacré réseau.
Et elle donne du fruit, surtout.
Oui, oui, c'est assez chouette de voir ça, oui.
Pour mettre un peu contexte quand même un petit peu et juste voir les choses un peu plus concrètement, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu le déroulé de votre séjour? Comment est-ce que vous êtes arrivé en Terre Sainte et comment est-ce que vous en êtes reparti? En donnant un peu en survolant un petit peu tout votre séjour.
Écoutez, je suis arrivé donc fin septembre, parce que quand on part en Terre Sainte, on a 90 jours comme visa touristique. Et donc j'avais visé pour pouvoir rester jusqu'au 25 décembre. Et donc je suis arrivé fin septembre, et puis là j'ai été accueilli donc au couvent des Dominicains, le couvent des Dominicains qu'on connaît bien à Toulouse, hein, et donc il y a l'école biblique et archéologique de France à Jérusalem, qui a été fondée par le père Lagrange, et où il y a d'éminents dominicains qui travaillent actuellement. Et donc, c'est une école où il y a de l'archéologie et de l'étude de la Bible. Et donc, plein d'esprits très brillants et qui embauchent aussi, embarque des étudiants qui travaillent là-bas sur la Bible dans ces traditions que vous avez à retrouver sur Internet. C'est assez passionnant. Ils sont en train de faire une cathédrale numérique biblique, toute la Bible avec des références culturelles, ça peut être même à des clips de rap, ou voyez, des tableaux bien connus de l'histoire de l'art, et donc là il y a des belles œuvres qui sont en train d'être faites dans ce couvent. Et donc moi j'étais dans ce couvent pendant 3 mois, j'ai la chance de vivre là-bas, d'avoir les offices là-bas, de suivre quelques cours d'archéologie et de Bible, donc ça permettait d'aller sur le terrain, de découvrir aussi cette discipline qu'est l'archéologie. Et puis après, je découvrais un petit peu les communautés locales, au gré des circonstances, des rencontres, je découvrais des lieux aussi. Et donc, 3 mois entre repos, études et visites. Et je retiens aussi une rencontre assez sympathique que j'ai faite, hein, le frère Abiel, qui est actuellement head au diocèse de Jérusalem, mais qui depuis 20-25 ans connaît très bien les déserts de Judée et puis tout le monde monastique en fait. Hein, il s'est beaucoup intéressé au développement de la vie monastique dès les premiers temps de l'Église. Et donc, c'était une grande joie d'aller aussi dans certains wadis, dans certains déserts ou des canyons où la vie monastique a fleuri dans les premiers temps de l'Église. On trouve des cellules de moines un peu partout, accrochées à la falaise. On ne sait même pas comment ils montaient, certainement avec des cordes. On trouve des lieux de célébration, notamment une chapelle là, qui est dédiée à Sainte-Anne, où il y a encore des mosaïques qui datent du 5e, 6e siècle. Et donc, tout ça est assez bouleversant d'être en prise avec les chrétiens des premiers siècles et la manière dont ils ont vécu. Donc ça a été vraiment une grande richesse de découvrir un peu tout cela, découvrir aussi la ferveur des chrétiens locaux, et donc 3 mois, et ça m'a permis de bien me reposer, de bien me ressourcer, et voilà, maintenant je suis de retour en France.
De retour en France, et peut-être un autre passage en Terre Sainte?
Non, pas en Terre Sainte malheureusement, mais enfin bon, une grande joie déjà, c'est que quand je suis parti de la paroisse étudiante l'année dernière, il y a eu beaucoup d'étudiants ont participé à un beau cadeau, et donc c'est un pèlerinage à Guadeloupe. Donc là, je vais avoir la chance d'aller au Mexique auprès de la Vierge de Guadeloupe. Aussi un haut lieu spirituel et un haut lieu de conversion, parce que vous savez que lorsque la Vierge est apparue, après, dans les 10 années qui ont suivi, il y a eu 2 millions de baptêmes. Et donc, quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, moi, vu l'afflux de demandes de baptêmes qu'il y avait sur la paroisse étudiante, je me suis dit, c'est intéressant de voir un petit peu comment la Vierge Marie a engendré tout ça là-bas au Mexique il y a quelques siècles, et puis comment est-ce que l'Église a fait face à cet afflux de catéchumènes.
Parfait. En plus, on en avait parlé il y a quelques semaines là, de cette apparition, parce que c'est... décembre que nous la fêtions. Donc c'était aussi l'occasion d'en parler un peu sur ça, d'autres choses. J'aimerais qu'on revienne, si vous voulez, un peu en Terre Sainte. On parlait du coup du lien entre la France et Jérusalem, et c'est vrai que la France a quelques prises de territoire à Jérusalem, notamment des églises assez importantes. Je pense qu'il y a l'église du Notre-Père, par exemple. Est-ce que vous avez l'occasion de visiter ces lieux? Et voilà, est-ce que vous avez vu un peu ces endroits-là?
Tout à fait. Alors, effectivement, il y a quelque chose d'assez bouleversant. Alors, on va y revenir, mais l'église d'Abou Ghosh, qui est un prieuré qui date des croisades, qui est magnifique, où il y a quelques moines olivétains. Ils développent justement un volontariat pour les jeunes, donc ça sera un lieu intéressant pour les jeunes qui voudraient passer quelques temps en Terre Sainte, logés, nourris là-bas, et en même temps contre bénévolat, et donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Ensuite, il y a effectivement l'église du Pater, l'Eléona, sur le Mont des Oliviers, face à Jérusalem, une église vraiment magnifique qui appartient à la France, et il y a des carmélites qui sont là, une quinzaine, dont Sœur Agathe, qui est une Toulousaine. Et donc je suis allé célébrer la messe plusieurs fois là-bas, et c'était une grande joie de voir et de découvrir que depuis plus de 150 ans, en fait, des Toulousains et les familles toulousaines avaient eu ce désir et ce projet de construire une basilique du Sacré-Cœur sur le Mont des Oliviers. En voulant dédier une basilique au Sacré-Cœur de Jésus à Jérusalem. Et donc ils avaient négocié avec le pape, eu sa bénédiction, ils avaient commencé à récolter des fonds. Mais dans les années 30, avec la crise économique, le projet a été avorté. Et donc ça, c'est assez intéressant, l'église du Pater. Il y a aussi d'autres lieux qui appartiennent à la France. L'église Sainte-Anne, magnifique, hein, lieu de la naissance de la Vierge Marie. Et là, ce sont les Pères Blancs qui sont là-bas. Une église vraiment magnifique où il y avait la messe consulaire à l'occasion du 8 décembre. Donc vous voyez, alors que vous, les étudiants, faisait quelque chose de grand à la Dorade, eh bien, nous étions beaucoup de Français avec le consul pour la messe consulaire qui était à Sainte-Anne. Et alors, vous savez, dans cette particularité du consul de France à Jérusalem, comme il est protecteur des chrétiens d'Orient, il y a un petit rite liturgique qui est intéressant, c'est qu'on encense le consul, et donc ça, c'est pas contraire à la laïcité, vous voyez, hein, c'est l'histoire, hein, et la laïcité n'exclut pas le fait religieux. Et donc, on encense le consul, et puis, en général, on lui présente l'évangile aussi à la vénération. Alors avant, il embrassait l'évangile, aujourd'hui, il le vénère simplement par une intimation. Mais donc c'est assez intéressant de voir aussi ce rôle de la France là-bas à Jérusalem, y compris dans le développement des communautés chrétiennes. Donc l'église de Sainte-Anne, et puis il y a un lieu qu'un Français a fouillé et qui aujourd'hui appartient à la France depuis plus de 150 ans, qui est le tombeau des rois, qui est un lieu archéologique intéressant. Et le cinquième lieu, j'avoue que je ne l'ai plus en tête, mais en tout cas la France est bien présente là-bas, et elle attend des pèlerins français. Et c'est peut-être l'autre chose que je voudrais vous dire, c'est que n'hésitez pas à imaginer des pèlerinages en Terre Sainte, à économiser, mettre de l'argent de côté, parce que maintenant, on a plein de contacts là-bas, il y a des étudiants, j'ai eu la joie de retrouver un étudiant dans le désert là-bas, qui était passé par la paroisse étudiante il y a quelques années, et qui a aussi plein de contacts et qui rêve aussi, je crois, d'organiser un pèlerinage pour des jeunes Toulousains.
Et peut-être en 2033, à l'appel du pape Léon XIV qui espère un jubilé à Jérusalem, peut-être.
Ouais, merci Enzo, c'est incroyable cette proposition du pape. Ça a beaucoup résonné, ça peut être quelque chose d'extraordinaire, hein. Vous imaginez les chrétiens qui viennent du monde entier. Et j'étais aussi heureux de voir que chez les juifs qui sont devenus chrétiens, parce que vous savez qu'il y a quand même pas mal de conversions du judaïsme vers le christianisme, il y a des juifs qui se disent messianiques, donc qui font pas le pas de rentrer dans l'église, mais il y a des juifs qui sont devenus catholiques. Et donc je vois qu'ils étaient très heureux aussi de cette invitation du pape et qu'ils mettaient beaucoup d'espérance sur le fait qu'Israël puisse redécouvrir la figure du Christ, le Messie, et que de nombreux parmi eux puissent le reconnaître comme leur Seigneur. Donc 2033 à Jérusalem, effectivement, mais je pense que vous, jeunes chrétiens, vous pouvez ne pas attendre 2033 en allant en 2027, par exemple.
Très bien, on ira sûrement à Jérusalem tant qu'on sera encore jeune. Donc pour conclure, monsieur l'abbé, j'aurais vous demander, peut-être encore, là c'est encore tout récent, mais comment est-ce que, du coup, qu'est-ce que vous retenez de ces 3 mois en Terre Sainte, et comment est-ce que vous pensez que ça va vous impacter pour le reste de votre sacerdoce et de votre vie?
Bien sûr, on lit pas l'évangile de la même manière, on a envie de connaître la Bible, en fait, de comprendre comment le Christ accomplit pleinement les Écritures, et donc de connaître l'Ancien Testament. Et vous voyez, je vous invite à vous y coller, parce que l'Ancien Testament, au début, ça peut être un peu comme du chinois, quoi. On peut l'entendre, mais si on s'y colle pas, on rentre pas vraiment dedans. Alors que si on rentre peu à peu dans l'Ancien Testament, mais on découvre le plan de Dieu, son plan de salut, et comment progressivement il se révèle, et ça c'est assez bouleversant. Vous voyez, quand par exemple on descend de Jérusalem à Jéricho, dans ce wadi là, dans ce désert, c'est assez bouleversant de voir que selon la tradition, en fait, ce désert est un lieu où Adam serait allé pleurer après le meurtre d'Abel par Caïn, son frère. Alors vous voyez, c'est pas un lieu vraiment archéologique, mais c'est un lieu théologique, on réfléchit là-dessus. Et donc Adam est allé pleurer là-dedans pendant 40 jours, hein, c'est 40, on sait bien ce que c'est aussi, hein. Le Christ lui-même, eh bien, est allé au désert pour, comme nouvel Adam, eh bien, racheter l'humanité et lui permettre de revenir vers Dieu, de revenir vers la ville sainte. Vous savez très bien que Jéricho a une mauvaise réputation, hein. Quand on descend de Jérusalem à Jéricho, c'est une figure de l'homme qui est blessé par le péché originel, qui s'éloigne du paradis originel et qui est dans sa déchéance. Et le Christ, lui, a permis de remonter vers Jérusalem. Il est celui qui conduit à travers le désert les hommes de toute race, langue, peuple et nation. Et donc, d'une certaine manière, le Christ, il est celui qui nous prend, nous, dans notre soif spirituelle et qui nous donne de nous abreuver en nous ramenant vers le ciel. Et donc, vous voyez, en fait, tous ces lieux qui ont été pétris par la prière, par la tradition depuis des siècles, nourrit énormément notre vie de foi. Et donc, moi, je suis persuadé que ça va nourrir aussi toute ma manière de vivre l'Évangile et de transmettre l'Évangile. Et donc ça, je rends grâce pour cette opportunité qui m'a été donnée de passer 3 mois là-bas. Oui.
Merci beaucoup, monsieur l'abbé Damien Verlet, prêtre pour le diocèse de Toulouse, pour ce petit retour depuis la Terre Sainte. On prie pour vous et on prie pour vos vacances bien méritées et pour la continuation de votre sacerdoce.
Merci beaucoup, Enzo. Merci, Louis-Marie. Merci à tous. Et puis, donc, mettez dans un coin de votre tête, hein, qu'un jour, on partira tous en Terre Sainte en pèlerinage.
Avec grand plaisir.
Inch'Allah.
Inch'Allah.
Yallah, yallah.
Yallah. Ouais, avant de retrouver la dernière chronique de Louis. Non, avant de retrouver l'interview de Louis-Marie avec le père Bogdan, petite pause musicale dans les yeux d'Émilie Jodassin sur Radio Présence.
Du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été nous reviendra? Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Moi, j'avais le soleil nuit et jour dans les yeux de l'amour. Et dans son quartier du vieux Québec, quand les toits deviennent verts, quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent. On dirait que les gens sortent de la terre. Mais Émilie n'est plus à moi, j'ai froid pour la première fois. Je n'ai plus ni sa chaleur, ni sa lumière. Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire, moi.
19h35 sur Radio Présent, vous êtes toujours avec Soif d'autre chose et je vous propose pour continuer la soirée de réécouter une interview que nous avons fait le mois dernier, plus précisément le 29 novembre à l'occasion de la Saint-Saturnin. Et pour l'occasion, avec Enzo, on est allé interviewer le père Bogdan Vilianic, curé-recteur de la basilique Saint-Sernin, pour parler de la figure de ce grand saint et de l'importance des vêpres solennelles.
À suivre, une interview un peu en exclusivité, puisque on a eu Enzo tout à l'heure qui était sur la moto. Et bien, a priori, Enzo, vous êtes arrivé à Saint-Sernin dans la basilique.
Effectivement, depuis la basilique Saint-Sernin, donc nous recevons le curé de la paroisse qui va nous expliquer donc l'importance de la Saint-Saturnin et aussi le cérémonie qu'on connaît pas beaucoup, nous catholiques, certains y vont, mais ce n'est pas aussi répandu que la messe, l'importance des vêpres solennelles.
Oui, Enzo?
Ah oui, d'accord.
Non, excusez-moi, parce que j'ai du monde dans la régie, donc voilà, j'étais au four et au moulin, donc voilà, on est bon pour le bêtisier.
Alors, bien, oui, là, on est bon pour le métier.
Vous êtes prêt pour l'interview ou je vous laisse encore un petit peu de temps?
Non, on est prêt, c'est comme vous voulez, Francky.
Ah bah, allez-y, vous pouvez y aller, vous avez l'antenne tout à vous, Enzo.
Et donc, cette interview sera menée par Louis-Marie, chroniqueur dans Soif d'autre chose.
Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit mon cher Enzo, on est avec Monsieur l'abbé Bogdan Vilianic, curé recteur de la basilique Saint-Sernin, que nous recevons aujourd'hui, bah, justement, ces solennités de la Saint-Saturnin. Donc, bonjour, Monsieur l'abbé.
Bonjour à tous.
Et donc, on va évidemment parler de la figure de Saint-Saturnin que nous faisons aujourd'hui. Mais avant ça, quelques mots, Monsieur l'abbé, sur les vêpres qui ont lieu donc hier soir pour la Saint-Saturnin. Et donc déjà, petite question, pourquoi est-ce que les vêpres pour la solennité d'aujourd'hui ont lieu hier soir?
Eh bien, selon la tradition ancestrale de compréhension juive des jours et des fêtes, la journée commence la veille le soir et finit avec le soir de la journée suivante. Donc aujourd'hui, par exemple, le soir, on sera déjà dans les premiers vêpres de dimanche. Et c'est logique, hier soir, on était dans les premiers vêpres de Saint-Saturnin.
Très bien. Et donc, est-ce que on peut aussi appliquer ça donc à la semaine qui est vécue dans la liturgie, ou du coup le dimanche serait aussi le premier jour de la semaine?
Alors, il n'y a que les grandes fêtes, c'est-à-dire des solennités, qui ont ce privilège d'avoir les premiers et les secondes vêpres.
Très bien, merci beaucoup. Et donc, les célébrations ont aussi continué aujourd'hui dans la journée, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que ça s'est déroulé, du coup, aujourd'hui, ce jour même de la Saint-Saturnin?
La fête de Saint-Saturnin a son rituel bien précis à la basilique. Il permet aux fidèles se recueillir près du tombeau de Saint-Saturnin, vénérer ses reliques. Donc, traditionnellement, la fête commence avec les laudes grégoriennes à 8h45, on n'est pas si pressé le matin, 8h45, suivie de la messe à 9h, toujours au tombeau. L'animation grégorienne participe à nous remémorer peut-être ce temps romain quand Saint-Saturnin était conduite au martyr.
Très bien, donc justement, revenons un peu sur la figure de Saint-Saturnin. Parlons-en un petit peu. Qui était-il, d'où il venait et quelle était sa mission ici à Toulouse?
Saint-Saturnin probablement venait de la région de l'Afrique du Nord, peut-être Tunisie. C'était un nom répandu à cette époque, Saturninus, dans la Provence romaine. Et il était envoyé par le pape pour évangéliser nos contrées. C'est le premier évêque fondateur de la foi chrétienne dans cette ville de Toulouse. Et comme l'exemple de témoin de la foi chrétienne, son importance pour les générations futures est primordiale. En quelque sorte, c'est de lui, comme dit toujours la prière de Saint-Saturnin, que la ville de Toulouse a reçu la lumière de l'Évangile en chassant les ténèbres. Saint-Saturnin est vénéré depuis presque des siècles maintenant ici dans la ville de Toulouse. Et puis la légende, par contre, ça les Toulousains ne savent pas toujours, il y avait une légende qui a persisté jusqu'à à peu près 17e siècle, je ne sais pas pourquoi, on croyait que Saint-Saturnin, alors que nous savons que c'était à peu près en 250 l'avènement de son martyr, il était prétendu qu'il était le disciple de Jean-Baptiste. Et donc c'est lui qui aurait... était le premier parmi les 72 apôtres que le Christ envoya prêcher dans toutes les contrées où il voulait se rendre. Et cette proximité entre Saint Saturnin et les apôtres expliquerait pourquoi on a tant des reliques des apôtres ici à la basilique. Donc, l'histoire imbriquée, curieuse, belle, enjolivée, mais ce que les Toulousains retiendront surtout, c'est un homme qui ne discute pas face aux exigences de la foi chrétienne et qui choisit Dieu par-dessus tout, toujours et encore, même face à la mort.
Tout à fait. Donc, merci beaucoup de vous déjà pour ces quelques mots. On parlait du coup des ténèbres qui ont été chassées, entre autres les ténèbres du paganisme et donc des premières fausses religions. Le contexte historique dans lequel Saint Saturnin a évolué était quand même assez particulier parce que la foi chrétienne n'était pas encore aussi tolérée qu'elle ne le fut plus tard, et donc particulièrement à Toulouse, et c'est d'ailleurs ce qui a conduit justement à son martyre. Et donc, ça nous permet de faire le lien aussi avec l'église Notre-Dame du Thor qui a réouverte hier. Et donc, déjà, quelle est la particularité de ce lieu, de cette rue aussi, et donc, en final, qu'est-ce qui permet du coup de nous faire arriver ici, à la basilique Saint-Saturnin, sur le lieu de son martyre?
Alors, son lieu de martyr, c'est plutôt la place Capitole ou Esquirol, ça se discute, là où il y avait le temple de Jupiter, et son corps était brisé déjà en étant, dès le départ, traîné par le taureau. Maintenant, l'église du Thor a un emplacement symbolique, puisque c'est le lieu où, selon la tradition, la corde s'est rompue. Le taureau a continué sa course et était tué. Je pense plus... les érudits le savent, à Matabio, qui veut dire « tuer le taureau en occitan ». Par contre, le corps de Saint Saturnin était récupéré par deux saintes femmes à cet endroit, précisément rue du Thor, là où est l'emplacement aujourd'hui de l'église du Thor, et était amené pour être enterré ici, à la basilique Saint Saturnin. Il n'y avait pas encore de basilique, c'était le cimetière romain en dehors de la ville. Maintenant, dans certains récits, on dit que d'abord Saint Saturnin était enterré à l'emplacement de l'église du Thor. Ça, par contre, ce n'est pas tout à fait exact. Apparemment, cette légende était inventée par un des curés de Notre-Dame du Thor qui voulait percevoir de père abbé de Saint Saturnin un peu plus de revenus. Et pour appuyer sa demande, il disait, eh bien, c'était le premier emplacement de l'enterrement de Saint Saturnin, donc il faut que Basilique Saint Saturnin participe davantage à la vie de la paroisse du Thor. Mais les deux lieux sont importants, et aujourd'hui, à chaque fois que nous faisons cette procession, en amenant les reliques de Saint Saturnin depuis Notre-Dame du Thor, après les vêpres solennelles, à la Basilique Saint Saturnin, nous faisons commémorer ce martyr, ce qui s'est passé, la fidélité de ces deux jeunes femmes qui ont enterré son corps, et aussi, en quelque sorte, marcher nous-mêmes dans les pas de Saint Saturnin en faisant notre propre témoignage d'appartenance au Christ.
Merci beaucoup, Monsieur l'abbé Bogdan. On va conclure très brièvement. Donc déjà, en cette solennité de Saint Saturnin, on précise aussi que le tombeau est accessible, donc les fidèles peuvent venir vénérer les reliques de Saint Saturnin, et pas seulement celles de Saint Saturnin, parce qu'il me semble qu'il y a aussi énormément de reliques dans cette basilique. Une basilique qui a le plus de reliques, je pense, si vous pouvez me confirmer, après la basilique Saint-Pierre, si je ne me trompe pas.
C'est exactement ce qu'on dit.
Donc voilà, on invite tous les fidèles à venir s'y recueillir, et donc on vous remercie, nous, à Radio Présence, pour votre intervention, et voilà, on vous attend aussi une bonne solennité de la Saint-Saturnin à tous, et on repasse l'antenne à Enzo.
Merci Enzo.
Voilà, un entretien qui a été réalisé pendant le Radio Don. Vous avez pu apercevoir aussi, même en direct, il arrive à avoir des petits couacs. Avant de retrouver Louis-Marie avec ta chronique sur Saint-Jean, c'est bien
exactement,
ça, Louis-Marie.
On va parler Saint-Jean.
Et on écoute l'Aziza sur Radio Présence. Daniel Balavoine.
Ouais.
19h49 sur Radio Présence. Louis-Marie, on te retrouve pour ta deuxième chronique sur Saint-Jean.
Exactement, on va conclure cette soirée en parlant de cette figure très importante du christianisme qu'est Saint-Jean, que nous fêtions le 27 décembre, donc c'était samedi dernier, jour où on fêtait aussi la Sainte Famille, mais voilà, moi j'ai fait le choix ce soir de vous parler de Saint-Jean, parce que je pense que c'est un vrai exemple de ce qu'est l'idéal chrétien, et donc je vais développer un petit peu... Dans cette chronique, donc quand on évoque Saint-Jean, on pense souvent et assez spontanément à l'amour. Et ce n'est pas un hasard, parce que Saint-Jean, c'est celui qui, lors de la Sainte-Cène, a reposé sa tête contre le cœur de Jésus. Un geste simple en apparence qui en dit pourtant beaucoup. Il révèle une intimité unique, une confiance totale, et Jean n'a pas peur de se laisser aimer ni d'aimer en retour. Son amour est tendre, il est vrai et profondément incarné. C'est ce même Jean qui, le matin de la résurrection, animé par cet amour, court vers le tombeau vide au matin de Pâques. Il n'y se rend pas par curiosité, mais par espérance. Il court parce que l'amour presse ce que la raison ne comprend pas encore. Avant même de voir, Jean croit. Et voilà déjà un enseignement pour nous aujourd'hui. L'amour ouvre les yeux du cœur. Mais Saint Jean, ce n'est pas seulement le disciple de la tendresse, mais c'est aussi le disciple de la fidélité héroïque. Parce qu'au moment le plus sombre, au pied de la croix, lorsque la peur disperse tous les apôtres, Jean est le seul des 12 à rester au pied de la croix, et là où tout semble perdu, il demeure, il ne fuit pas la souffrance, il ne détourne pas le regard, il reste simplement et par amour. C'est également au pied de la croix que Jean reçoit un trésor inestimable, parce que Jésus lui dit « Voici ta mère, ecce mater tua ». À travers Saint Jean, c'est toute l'Église qui reçoit Marie comme mère, et Jean, lui, accueille cette mission, il prend Marie chez lui, avec la même délicatesse que tout le reste, une profonde dévotion mariale qui est faite d'écoute, de respect et de confiance. Et cette fidélité ne sera jamais reniée, parce que Jean, c'est aussi le seul des apôtres à mourir de vieillesse et non en martyr. Après s'être exilé sur l'île de Patmos en Grèce où il reçut la révélation de l'Apocalypse, il retournera à Éphèse et, par devenu à un âge avancé, il n'avait plus guère qu'une parole à ses disciples. « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres, c'est le commandement du Seigneur. Si vous l'accomplissez, cela suffit. » Mais attention, l'amour de Saint Jean n'est pas un amour naïf ou simplement sentimental, c'est un amour éclairé par la sagesse et l'intelligence. Saint Jean est l'auteur d'un évangile d'une profondeur théologique exceptionnelle, ainsi que de lettres qui parlent de vérité, de lumière, de discernement. Chez lui, le cœur et l'esprit ne s'opposent pas, mais ils se complètent. Saint Jean nous rappelle ainsi que l'amour chrétien est exigeant, il engage tout l'être, le cœur qui aime, l'esprit qui comprend et la volonté qui persévère. Il nous montre que suivre le Christ, ce n'est pas seulement ressentir, mais demeurer, croire et transmettre. En ce sens, Saint Jean demeure un modèle pour tous les chrétiens, un modèle d'amour vrai, de fidélité courageuse, de confiance filiale envers Marie et de sagesse profonde. Alors en regardant Saint Jean, nous pouvons aussi nous poser cette question simple mais essentielle. Sommes-nous prêts, nous aussi, à reposer notre tête contre le cœur du Christ et à rester fidèles jusqu'au bout? Vu qu'on a parlé d'amour pendant cette chronique, je vous propose de poursuivre avec une chanson, enfin plutôt une prière, une magnifique prière du Saint Curé d'Ars, « Je vous aime, ô mon Dieu », interprétée par la chorale Sitio.
présence.
...19h56 sur Radio Présence. Voilà, il nous reste encore quelques minutes ensemble pour atteindre 20h. Voilà, c'était la première, on va dire, partie en direct, Louis-Marie, de la saison de Soif d'autre chose. On a été très heureux faire cette émission. On revient, bien sûr, pour 2026 avec des nouveautés, des invités, n'est-ce pas?
Ouais, on va continuer sur une très bonne lancée. Je pense qu'on aura, oui, en effet, comme l'a dit Enzo, de très bons invités. Et on sera très content de vous retrouver chaque semaine pour continuer de partager avec vous notre foi, et ce qui nous intéresse, ce qui nous anime, et voilà, de continuer de passer des bons moments en votre présence.
Et puis aussi, n'hésitez pas, si jamais vous êtes étudiant à la paroisse étudiante ou que vous aimez la radio, les ondes, etc., n'hésitez pas aussi à nous envoyer un petit message si vous voulez participer à Soif de trop choses, rentrer dans l'équipe. Vous pouvez nous envoyer un message sur l'adresse mail contact Radio Présence ou sur mon adresse mail ebasile@radioprésence.com. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des idées, etc. Nous sommes très ouverts. Voilà, Louis-Marie, c'est déjà la fin de notre émission. On va retrouver dans quelques instants Nathalie Cardon avec Des Clés pour Vivre. Avant ça, un peu de musique avec Richie Poveri, Sarah Perchettiamo. Très bonne fête de fin d'année et bonne année 2026 en avance.
Bonne année, bonne soirée.
Allez, c'était Soif d'autre chose. Il est 19h58 sur Radio Présence.
C'était Soif d'autre chose, une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.